être un sujet, en fait, je crois qu'il les élèves vous tient pas mal à cœur. Vous allez nous expliquer ça, puisqu'il s'agit de parler de la politique d'acquisition et d'enrichissement des collections, donc pour le cabinet des arts graphiques. Vous êtes le conservateur en charge de ce département. Et voilà, donc j'en profite pour... vous êtes les premiers à qui on en parle, et avec l'accord du président, puisque la Société des Amis vient justement hier soir d'acheter une œuvre qui contribue contribuera, on l'espère, à ces collections. Donc je l'ai fait tourner tout à l'heure, on les mettra sur la table si vous voulez voir. C'est une vente qui avait deux chers de Curiel hier soir. Donc, il y avait différentes œuvres qui pouvaient être d'intérêt pour Versailles. Bon, en l'occurrence, c'est en accord avec la direction du musée. Voilà, la Société des Amis de Versailles s'est positionnée sur deux œuvres, dont une, malheureusement, est partie à une enchère un peu supérieure à celle qui était possible dans le budget évoqué. Et sinon, donc là, c'est un dessin qui l'École française du 17e siècle présente une vue de la façade du château de Versailles côté de la Cour de Marne. Et alors, autre scoop, parce que la semaine dernière, c'était la semaine de la photo. Et donc, pour la première fois, la Société des Amis, donc à la demande du château, a acheté deux photographies qui pourraient être les premières photographies prises du château en 1852, surtout, et puis une autre en 1854. Donc, pareil, je vous les montrerai. Donc, c'était une vente à Drouot qui a eu lieu ce jeudi 10 novembre. Voilà, donc il y a une vue de la place d'armes du château de Versailles en 1854 de Guy son frère, et surtout donc, une très belle photo dans l'île sec, par du château bassin de Neptune 1852. Donc ça, ce sont des œuvres qui rejoignent le service des archives. Voilà, avec Marina Graal qui aura l'occasion de présenter. Alors aujourd'hui, il y a une visite justement, je ne sais pas si c'est un moment. Malheureusement, les œuvres ont bien été réglées, on avait autant encore de récupérer. En tout cas, elle pourra les montrer lors de la prochaine visite. C'est une première et pour c'est intéressant. Là, on a fait une action sur un axe qu'on n'avait encore jamais fait. Mais Isabelle, je vous laisse la parole.
Alors, je fais une parenthèse sur ces photos parce que c'est vrai que le département dont je m'occupe n'est pas en charge de la photographie, mais par contre des gravures du 19e et même du début du 20e. Donc, mais par contre, c'est une organisation interne au château qui fait que les photos se retrouvent dans le département des archives, mais comme œuvre et pas au titre d'archives. Et c'est vrai que c'est vraiment la continuité des œuvres dont je m'occupe, parce que les vues, c'est simplement un changement de technique, en fait. Hein. C'est, on utilise des techniques qui naissent au 19e, mais finalement, on se rend compte que les points de vue sont très souvent très semblables. Et puis, voilà, on a une évolution de la technique qui permet autre chose. Mais les photographes se mettent dans les pas des graveurs, qui était la technique de diffusion dont ils disposaient avant l'invention de la photographie. Donc ça, c'est parfaitement cohérent avec ce que je veux dire. Alors, Bénédicte, vous m'avez demandé de parler des acquisitions et des perspectives d'enrichissement qui vont avec la politique que je mène dans le domaine des arts graphiques. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de déborder un petit peu sur de quoi on part. Parce que ce que j'espère vous montrer, c'est que la politique d'acquisition, elle est cohérente par rapport aux collections déjà existantes. Et les collections du cabinet des arts graphiques, comme vous le pouvez le voir sur cette image, ce sont des collections qui ne sont pas présentées au public. Pour une bonne raison, c'est leur fragilité. Oui, tout à fait. Tout ce qui est sur papier, quelle que soit ensuite la technique, on préconise maintenant une exposition qui ne doit pas dépasser 3 mois, tous les 3 ans, maintenant 4 ans, avec un éclairage de 25 lux maximum. La dégradation du papier, en fait, est cumulative. C'est-à-dire qu'une fois que c'est dégradé, ça ne revient pas en arrière, il n'y a pas de restauration possible. Un papier insolé, un papier qui est jauni, qui a pris trop longtemps le soleil, la seule chose qu'on puisse faire, c'est tenter de stabiliser les dégradations. Mais on ne reviendra pas en arrière. On peut nettoyer, on peut gommer, on peut réparer des déchirures, mais on ne rattrapera pas un papier fragilisé. Et donc, même lorsque nous achetons des dessins ou nous avons des dessins qui correspondent à des pièces qui pouvaient être exposées ou qui pourraient être, parce qu'elles ont tout à fait une cohérence avec les collections exposées dans le château, eh bien ce n'est pas possible pour les préserver. Donc il faut réfléchir soit à une façon de faire tourner les collections, soit l'usage de facsimilés, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. D'où cette image, puisque 98% des collections d'art graphique sont conservées dans le grand commun, dans une réserve tout à fait moderne, très bien équipée, qui fait l'envie de beaucoup de collègues quand ils viennent, à Versailles, qui est installée au moment du déménagement des services dans le grand commun, donc tout à fait moderne. Que renferme ce cabinet des arts graphiques? Environ 30 000 œuvres. C'est un chiffre important, mais c'est une petite collection pour une collection d'art graphique. Donc avec une proportion de 28 000 estampes, au moins 1500 dessins, 350 manuscrits et albums, environ 90 pastels, donc une répartition qui met vraiment un axe, un point très fort sur les estampes. La thématique, elle est très nette. Parfois, il y a des petites choses étonnantes, mais de façon générale, toutes les collections tournent autour de Versailles, que ce soit la résidence royale, le musée de l'histoire de France, et sur toute la période 17e ou 20e siècle. C'est la raison pour laquelle les photos pourraient tout à fait, comme ça se passe dans beaucoup d'autres musées, être conservées dans le cabinet des arts graphiques. Plusieurs points, plusieurs dimensions, l'architecture, les décors, les jardins, donc des vues, vous connaissez les vues de Cotel, plus des plans, les éléments par l'Agence des bâtiments du roi, surtout pour le décor des jardins, beaucoup de portraits d'allégories du pouvoir monarchique, de scènes de la vie de cour, et puis beaucoup de scènes de l'histoire de France. Pour aussi étonnant que ça paraisse, la collection est composée à près de 60% de collections du 19e siècle. Donc on a assez peu de collections d'Ancien Régime, et de toute façon on n'a aucune collection historique, hein, c'est comme pour tout le reste, rien de ce qui est ici n'était là sous l'Ancien Régime. Ce sont uniquement des achats, des dons, des dépôts qui ont été faits depuis la fin du 19e, le milieu du 19e. Donc on a des dépôts du Louvre, du Mobilier National, beaucoup de dons et legs jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'ai pas marqué les dons de la Société des Amis, mais c'est une erreur diplomatique. L'un des dons importants, c'est la collection Grosse Œuvre en 1934, qui est vraiment un noyau important pour le cabinet des arts graphiques, avec des choses très, très rares. Et puis, dans les années 1920, on commence à s'intéresser à l'idée d'avoir une collection documentaire basée sur des gravures anciennes. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Il s'agit d'aider à documenter les œuvres, notamment les peintures du musée d'histoire de France, identifier les personnages, avoir une base qui finalement n'impose pas aux conservateurs ou chercheurs d'aller au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale pour faire tout ce travail, et également de proposer que Versailles dispose d'une espèce de centre de ressources, on trouve cette expression dès les années 30, pour les chercheurs, vraiment que Versailles soit identifié comme un centre de recherche aussi sur Versailles. C'est une dimension qui est assez nouvelle, mais qui n'est pas propre à Versailles, à la bibliothèque municipale, enfin pas propre au château, à la bibliothèque municipale de Versailles dans les années 20. On commence à créer deux fonds, et notamment un fonds qui s'appelle le Panthéon Versaillais, qui est un fonds de portraits de personnalités liées à Versailles. Et en 1935, le legs de la collection Rothschild au Louvre, de toutes les estampes de la collection Rothschild, donne lieu à la création d'un département des estampes et des arts graphiques qui est éphémère, hein, puisque le département des arts graphiques qu'on connaît aujourd'hui ne date que de 89. Mais il y a un début d'intérêt du côté des musées et des monuments pour ces collections d'art graphique. Elles sont vraiment renforcée par une politique d'acquisition très structurée, très bien établie dans les années 1930 à 1950, avec des achats en lots notamment très importants. Puis, il faut bien dire qu'après les années 50, on ne trouve quasiment plus de traces d'acquisition. Et il faut attendre la fin des années 90 pour voir de nouvelles acquisitions, aussi bien en dessin qu'en gravure, dont certaines d'ailleurs avec le soutien des amis. Je vous disais, le souhait, il est de créer ce musée de l'iconographie française, c'est Michel Chevaupré qui le dit, avec une véritable collection de portraits ou de gravures documentaires. Je vous laisse lire donc la phrase que j'ai trouvée dans un courrier de Maurice Chevaupré, qui souhaite constituer avec le fonds Portraits peints et sculptés de Versailles une iconographie entière française dont les inévitables lacunes seraient comblées avec des dessins, gravures et même photographies, et créer un office de renseignement pour les chercheurs. Donc il y a une démarche qui quand même est assez, assez moderne et qui montre bien que il y a une appréhension vraiment globale de l'histoire du château, hein, et de la matière dont on a besoin sur place. La collection, donc je vous ai dit, elle est composée d'à peu près 1500 dessins sur les 30 000 pièces du département des arts graphiques, dessins ou recueils en fait. 1500, c'est le nombre d'unités en fait de pièces de collection. Ça peut être des recueils assez importants pour les dessins. Je dois dire que je suis présentée comme l'acheteuse compulsive de la conservation. À toutes les réunions de conservation, j'ai deux nouvelles propositions d'achat, donc beaucoup sont suivies, ce qui est très agréable, puisque je suis là depuis 3 ans et demi, et j'ai fait le compte grâce à vous. J'ai traité 140 dons ou acquisitions, il y a un traitement même pour les dons, en 3 ans et demi, et à peu près la moitié en plus qui n'ont pas été suivis des faits. Donc c'est vraiment une poursuite que Madame Saul m'a demandé de mener quand elle m'a recrutée, hein, d'avoir cette... Il y avait deux axes, je vous en parlerai, mais la poursuite de l'enrichissement des collections, c'est vraiment un axe fort. Et ensuite, la question de la visibilité de toutes ces acquisitions. Je ne vous cache pas que je suis plus à l'aise et plus intéressée par l'Ancien Régime que le 19e. Donc je me suis rendue compte que les acquisitions sur le 19e siècle étaient un petit peu les mains pauvres. Voilà, pour de multiples raisons. Des exemples de pièces qui se trouvent dans les collections. Donc je vous ai dit des thématiques qui sont très claires. Par exemple, c'est un projet qui est anonyme des nouveaux bains d'Apollon, mais qui est à mettre en lien avec les projets d'Hubert Robert, avec le Rocher, donc tout ce genre de dessin. Une vue à vol d'oiseau de 1684, donc assez précoce, très proche des gravures de Pierre Menand qu'on va trouver dans les recueils de Mortain, qui datent des années 1710, donc avec ce point de vue très élevé. Et puis, je vous montre encore les cotels, à ne pas confondre avec les grands cotels de la galerie de Trianon. Il y a, en plus de ces grands cotels, des petites miniatures qui ont été plus ou moins copiées, enfin qui se sont inspirées des grands cotels par Jean Cotel, et qui étaient destinées à orner les appartements du Grand Dauphin à Meudon. Et donc on a toute une partie de cette série qui est comparable à ce qu'on va trouver dans la galerie des Cotels. Vous avez là le cabinet des oiseaux, la fontaine des oiseaux, avec de part et d'autre les deux fontaines de la cigogne et du renard, qui illustrent donc la fable d'Ésope. Et voilà une acquisition récente cette année, un projet de construction d'une chapelle dont la construction a été entreprise en 1685 par Ardouin Mansart, qui est une chapelle qui donc n'a pas duré, enfin a été ensuite supprimée. Ce qui a particulièrement intéressé Alexandre Maral, c'est qu'il y a ce que vous pouvez deviner au centre, une petite retombe, c'est-à-dire une partie qui est collée au niveau de l'autel et qui permet de voir, d'avoir un dessin de l'autel, et qui là est une vue qu'il ne connaissait pas. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les collections dont j'ai la charge ne fonctionnent pas en autarcie. À chaque fois que j'ai un projet d'acquisition, c'est vrai que j'en discute avec celui des collègues qui va s'intéresser à la peinture 18e, à l'architecture, au projet de chapelle, là en l'occurrence, parce que les dessins ne fonctionnent pas seuls, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme avec un projet d'architecture, avec comme dessin préparatoire à une peinture. Enfin, ce ne sont pas des œuvres isolées, elles ont vraiment un contexte. Alors, une autre acquisition à la même vente, dont j'étais particulièrement heureuse, puisqu'il s'agit d'un recueil de dessins d'un architecte et surtout concepteur de jardin de Salzbourg, au service du prince évêque électeur, Franz Anton Dannreiter, qui fait un tour d'Europe entre 1715 et 1726, et qui s'arrête à Versailles. Et on sait par sa correspondance qu'il vient sur place, qu'il a beaucoup de mal d'ailleurs à obtenir l'autorisation de venir sur place pour dessiner et vraiment prendre des visus, des idées pour les jardins qu'il est chargé d'aménager à Salzbourg. Et 1723-1725, c'est une date pour laquelle finalement on a peu de vues du parc du château, entre le grand recueil de Mortain de 1714-1715 et les premières gravures de Rigaud qu'il réalise à la fin des années 1730. On est vraiment sur une vingtaine d'années du tout début du règne de Louis XV, et ça nous donne vraiment un état très précis, très détaillé du château. Et on va voir que pour un certain nombre de choses, il va vraiment s'en inspirer, avec la particularité d'avoir un style qui lui est très propre. Je ne sais pas si j'ai choisi. peu avec cette souche sur la droite, et puis cet encadrement de colonnes, enfin, qui pose le dessin. Souvent, il y a des arbres morts. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver après ça dans tous ces dessins. Donc, une vue de l'Arc de Triomphe, là aussi, qui donne des informations qu'on n'avait pas, puisque la gravure de Rigaud, finalement, montre la fontaine en eau et ne permet pas, par exemple, de voir les bas-reliefs qui sont extrêmement visibles. Donc, en fait, le document est très intéressant historiquement, les dessins sont de qualité, et en même temps, il recèle des informations que les chercheurs ou les conservateurs peuvent exploiter aussi dans un but de recherche. Dans le même esprit, alors certainement la plus belle acquisition, en tout cas la plus prestigieuse que nous ayons fait, c'est l'album des plans et vues de Trianon, réalisé pour les plans par l'agence de Richard Mick et pour les aquarelles par Claude-Louis Châtelet. Donc c'est un volume qui présente l'ensemble des coupes de Trianon avec une dizaine de vues aquarellées. On a donc coupe, plan, élévation et vues. Je vous ai montré simplement des vues parce qu'elles sont vraiment très, très charmantes et très séduisantes. Et il s'agit de l'exemplaire qui a été présenté par Mick à Marie-Antoinette. On en est absolument sûr par l'état des travaux, en fait, l'avancement des travaux, qui nous permet vraiment de voir que c'est le premier de ces recueils, puisque vous savez qu'il en existe plusieurs, notamment un qui est connu, puisque souvent exposé, de la Bibliothèque Estense, qui était destiné aux frères de Marie-Antoinette. Et là, l'intérêt, donc il est assez différent en termes de style. On sent que c'est un premier dessin qui est vraiment très vif, très, très acéré, très pris sur le vif, avec beaucoup de mouvements. Les autres seront beaucoup plus posés, beaucoup plus peut-être immédiatement séduisants parce que beaucoup plus colorés. Mais là, on a vraiment une qualité de dessin qu'on n'a pas sur les autres recueils. On en connaît 4. Et puis là, on a vraiment le carrosse de Marie-Antoinette qui entre à Trianon, un carrosse à 8 chevaux, l'entrée donc qui pose aussi la reine dans son domaine, en fait. Voilà le jeu de bagues, là aussi, qui donne des indications un petit peu différentes de ce qu'on va trouver dans les autres. C'est particulièrement vrai également pour la grotte. Voilà, donc c'est une œuvre qui a été classée trésor national par l'État avant par le ministère de la Culture, et que nous avons pu acheter de gré à gré. Un des deuxièmes points fort de la collection, ce sont simplement des dessins préparatoires pour des éléments de décor du château. Ça peut être des boiseries, ça peut être des éléments de plafond, des éléments de tableaux en dessus de porte. Là, un petit peu un échantillon avec évidemment l'un des plus remarquables par Charles Lebrun, mais on va avoir aussi une allégorie de la naissance du duc de Bourgogne par Natoire. Et donc, dans le même esprit, une acquisition récente également chez Osna en début d'année, un ange qui fait partie du grand décor de Charles de la Fosse pour le plafond de la chapelle, et qu'on retrouve tout à fait bien, à peine modifié, dans le dans la peinture achevée. Alors, c'est pas pour autant que nous avons pour objectif d'acheter tous les dessins préparatoires de toutes les œuvres qui passent en vente pour Versailles. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelques éléments représentatifs. Une autre acquisition, j'ai une acquisition, en l'occurrence il s'agit d'un don, personne que je ne citerai pas, donc il s'agit d'un dessin préparatoire pour un dessus de porte de la chambre de Marie Skanska, La jeunesse et la vertu, présentant deux princesses à la France, donc une allégorie de la naissance des deux premières filles de Louis XV et de la reine Marie Skanska. Un autre axe important, ce sont les portraits royaux principalement, mais aussi, portraits royaux au sens large, un portrait de la famille royale, et puis aussi des portraits de personnages importants de la cour. Donc nous avons dans les collections cette miniature, c'est vrai qu'avec les photos c'est trompeur, mais c'est une toute petite miniature qui doit faire, je crois, 12 cm de hauteur. Vraiment une toute petite chose extrêmement fine, extrêmement raffinée sur vélin, qui est donc Marie-Thérèse en costume à la polonaise, un costume de carnaval, un costume de bal comme le masque l'atteste. Donc Joseph Werner, c'est un peintre suisse qui a été appelé à la cour par Louis XIV, qui est aussi, j'ai choisi de mettre cette miniature, mais qui est aussi l'auteur d'un ensemble de trois petites gouaches sur vélin, et notamment la très fameuse représentant Louis XIV en Apollon tenant les chevaux. Extrêmement emblématique des collections, qui est un dépôt d'ailleurs. Et voilà une acquisition que j'ai pu faire l'année dernière, donc qui est attribuée à Joseph Werner, qui n'est pas signé, mais qui est tout à fait dans sa manière, et qui représente François d'Athénaïs de Montespan, au tout début en fait de sa faveur, tout à fait juste avant que, en fait, elle a les faveurs de Louis XIV au moment, quelques temps avant le départ de Joseph Werner de France. Une autre acquisition, un très beau pastel de Valeran Vaillant. Alors, Valeran Vaillant, c'est un pastelliste, mais c'est surtout un graveur qui est pas extrêmement connu, mais qui a été chargé par Anne d'Autriche de réaliser une série de 12 portraits au pastel de Louis XIV, de Marie-Thérèse et de toutes les personnalités qui étaient au mariage de Louis XIV. Et d'un point de vue de l'iconographie, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment une représentation du roi à un moment précis qu'on peut vraiment dater. Il existe une gravure qui a été tirée de ce portrait où la lettre indique que Valeran Vaillant a pu représenter le roi des visus. Hein, donc vraiment un portrait pris au plus près et sur le vif, donc avec une image donc, du coup, très séduisante du jeune roi. Un pastel malheureusement très usé, hein, comme vous pouvez le voir sur le dessin de la dentelle, mais malgré tout le visage est très préservé et magnifique. Il était certainement à l'origine très coloré, puisque deux de ses dessins se trouvent, notamment le portrait de Mazarin se trouve à Albertina. J'ai pu les voir et quand on les sort, on a l'impression qu'ils ont été faits la veille avec un rouge et une présence du visage qui montre quand même que ce portrait a été assez usé, certainement exposé. Malgré tout, ça, il est vraiment très intéressant. Donc là, c'est une série, c'est une vente dans laquelle il y avait 5 portraits. Et nous avons eu les 5, notamment Anne d'Autriche et Marie-Thérèse. Voilà, j'ai un problème de... j'ai mal... ma photo n'est pas très bonne. C'est un dessin qui est plus allongé, qui illustre un autre point des acquisitions, tout ce qui est autour de la vie de cour. Aussi bien les scènes officielles que des scènes finalement de la vie plus quotidienne, plus intime. J'ai choisi de ne pas vous montrer un certain nombre de choses qui sont extrêmement connues. La princesse de Navarre, enfin voilà, il y a des scènes que l'on connaît très bien, le Moreau, les illuminations pour le mariage du dauphin, en plus vous les verrez à l'exposition Fête et Divertissement. Donc les quelques acquisitions que j'ai faites dans ce domaine, et bien on a par exemple ce dessin de Charles Monet, qui est principalement un illustrateur, et qui représente donc le dauphin, la dauphine Marie-Joseph leur précepteur, le duc de la Vauquillon, qui donc entoure les trois enfants. Trois enfants de France. C'est un dessin préparatoire pour un tableau qui a été commandé par le duc de la Vauquillon mais qui est perdu, qui était une œuvre présentée au salon, je crois. C'est illustre cette vie un petit peu quotidienne qui intéresse de plus en plus aujourd'hui. On est très sensible à ces images-là. Une acquisition de cette année également, un dessin de Moreau le Jeune, qui est dessinateur des menus plaisirs, graveur du roi, et qui est aussi bon dans ses projets pour les fêtes, pour les menus plaisirs, que pour les illustrations qu'il va produire en nombre. Et là, donc, il s'agit d'une invitation pour le bal paré à Versailles en mai 1770. C'est un projet de billet qui n'a pas été réalisé en charge de l'organisation des festivités a choisi un modèle beaucoup plus lourd, beaucoup plus néoclassique. Et là, on sent encore, on est en 70, Moreau est encore jeune, et on sent très nettement l'influence de Cochin, puisque là aussi, vous pourrez les voir à l'exposition Fête et Divertissement, les petits billets d'invitation pour les mariages de 1745 et 47 que réalise Cochin, c'est très proche. Dans la composition, pas dans le style qui lui est propre. Et la seule chose qu'on va retrouver finalement dans le billet qui est gravé, c'est ce serpent qui se mord la queue, qui est un symbole d'éternité, donc l'éternité de ce mariage, et le soleil rayonnant. Alors, une petite parenthèse, il m'arrive d'acheter des livres anciens d'avoir la chance de bénéficier aussi de dons très généreux. L'une des pièces, il y a vraiment eu plusieurs très très belles choses, mais l'une des pièces peut-être phares est cet almanach. À l'envers. Oui. Donc un almanach royal pour l'année 1752. L'almanach en lui-même, c'est un livre, un ouvrage qui est extrêmement commun, qui est, comme vous le savez, une espèce de bottin de toute de la cour et de l'administration avec toutes les informations, les indications nécessaires. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour celui-ci, c'est une très très belle reliure mosaïquée, c'est-à-dire composée de plusieurs cuirs qui sont montés ensemble. Et dans les médaillons qui sont peints, ils font inverser, mais vous voyez le LBA pour Louis le Bien-Aimé, ce qui est un chiffre qui est extrêmement rare. Et quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va trouver finalement pratiquement le même aux armes du roi d'Espagne, enfin aux chiffres du roi d'Espagne dans les collections espagnoles. Donc ça témoigne en fait, je l'ai mis dans les questions de la vie de cour, parce que ça témoigne de la vie de cour, de ces objets qui sont des objets finalement assez communs, mais qui par leur reliure deviennent des objets de luxe, des présents extrêmement somptueux que le roi fait à la famille royale et aux autres familles régnantes. Donc on est vraiment dans l'objet de cour qui marque bien le luxe de certains présents royaux. Donc une toute petite parenthèse, parce que ça représente quand même les deux tiers de la collection de dessins, à peu près 1000 dessins et aquarelles du 19e siècle, avec un noyau vraiment autour des commandes de Louis-Philippe pour le Musée de l'Histoire de France, ou autour de la même thématique, c'est-à-dire toutes les batailles, aussi bien les batailles de l'Empire que celles ensuite de la Restauration et du règne de Louis-Philippe, Barbagetti, Zix, Faure ou Yvon. Donc là, je vous ai mis une vue des environs d'Ulm, Barbagetti. Ça représente une centaine de très grandes aquarelles et j'ai mis celle-là exprès. Vous voyez qu'elle est très jaunie et en fait ce sont des œuvres qui ont été exposées je pense pendant au moins 50 ans et qui maintenant sont au repos quasi définitif dans la réserve parce que comme je vous l'ai dit le papier est cuit. Alors je passe aux estampes donc qui sont en nombre important, qui ont à peu près les mêmes, il y a moins la question de la vie de cour, mais qui ont à peu près les mêmes thématiques, un très fort axe autour des portraits, mais vous allez comprendre pourquoi, des scènes historiques et des gravures d'architecture, c'est les trois ensembles principaux. Les portraits, parce que en 1948, donc vraiment dans la période d'achat très importante pour la collection d'art graphique, 75 albums réalisés pour Louis-Philippe ont été achetés à la succession du comte de Paris. 75 albums sur, il y en avait à peu près 140, mais la deuxième moitié a brûlé aux Tuileries. Et ces 75 albums comportent 16 300 portraits gravés qui illustrent comment on le faisait, comme il était d'usage, tout ce qui est les rois de France depuis Pharaon, et puis tous les grands personnages, les artistes, toute une série extrêmement importante de portraits avec des choses, comme vous voyez, modestes, même si ce sont des jolies œuvres en manière noire, et puis quelques chefs-d'œuvre de la gravure, au hasard, un Durer, mais c'était aussi des Linck, des Masson, des Sylvestres, des Mélan, enfin vraiment des choses de très très belles. Très très belle qualité. Je vous ai mis du rare parce qu'on s'attend un petit peu moins à le trouver dans les collections. Alors, pour suivre cette collection d'iconographie. C'est un axe assez important aussi bien en dessin qu'en gravure. Je vous montre juste quelque chose. Alors, ça peut faire débat sur parce que on peut considérer que c'est séduisant ou bien que c'est très kitsch. En tout cas, c'est une gravure qui est extrêmement rare, qui représente le portrait de Marie-Antoinette par Gautier d'Agoty, donc en buste, qui est gravée par Jalinet avec une technique qu'il est le seul à son époque à avoir mise en œuvre, donc une technique, ce qui n'est pas encore l'aquatinte, qui permet de faire une gravure en couleur. Ce n'est pas une gravure mise en couleur, ce n'est pas une gravure aquarellée, comme on peut en trouver beaucoup au XVIIe, au XVIIIe siècle. C'est vraiment, ça fait partie des premiers essais de gravure en couleur, comme Gautier d'Agoty d'ailleurs peut en faire à peu près à la même époque. Et le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que l'encadrement est également aux trois couleurs, au bleu, orange, et la partie que vous voyez un peu plus jaune, c'est à l'or. Et donc c'est vraiment une impression à l'or, et Jalinet est quasiment le seul à réaliser ces impressions. Et elles sont extrêmement rares, extrêmement coûteuses également. Donc c'est vraiment, outre l'iconographie royale évidemment, c'est une rareté. Elle est dans quelques grandes collections dans le monde, mais vraiment très peu courante. Et en fait, on la trouve très souvent sans le dernier passage à l'or. Donc là, ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir avoir vraiment la gravure aboutie, en fait, dans un autre genre, mais tout aussi virtuose. On a donc une gravure qui représente le cardinal Dubois par Drevet, d'après Rigaud. Rigaud était très attaché à faire connaître son œuvre. Il avait une très très grande opinion de la qualité de ses œuvres et vraiment souhaitait les diffuser. Et pour le faire, il a trouvé en Pierre Drevet vraiment l'artisan, le graveur qui lui convenait et qui sait rendre ce qui est caractéristique de Rigaud, toute cette différence de texture, de matière, avec beaucoup beaucoup de virtuosité. Alors là, il faut un tout petit peu me croire sur parole parce que l'agrandissement n'est pas assez grand, mais quand on voit le pompon par exemple, on a vraiment l'impression qu'il est en laine et qu'il est en train de bouger. Pareil pour la fourrure, pour le velours, pour les satins, on a l'impression qu'ils brillent, enfin ils vibrent. Il y a vraiment une qualité de rendu des matières qui est très très spectaculaire. Ça fait partie des grands chefs-d'œuvre de la gravure. Alors la gravure, c'est aujourd'hui peut-être un petit peu, c'est un parent pauvre hein, du marché de l'art. Au XVIIIe siècle, ce genre de gravure s'arrachait. Hein, tous les collectionneurs, les grands collectionneurs, les Crozat, les Mariette, enfin tout ce qu'on peut, dont on peut connaître les noms, avaient des collections d'estampes extrêmement importantes. Ils pouvaient y mettre des sommes extrêmement importantes. Donc il y a une qualité là qui est tout à fait remarquable.
Quelle était l'importance des tirages ?
Très inégales, on ne les connaît pas forcément, autour de 1500 souvent, parfois jusqu'à 5000. En fait, après 3000-4000 passages, la planche est usée. Donc voilà, après ça, les très grands succès, on sent les fins de les fins de planche en fait, puisque on a plus plus tellement de matière, on n'a plus tellement d'encre. C'est des plaques de cuivre. Oui. La plupart du temps, c'est des plaques de cuivre. Le 18e, ce sont des plaques de cuivre. Alors, un autre axe extrêmement important pour le développement des collections de cabinets arts graphiques, ce sont les gravures qui ont été choisies par Louis XVI pour ses appartements intérieurs. C'est un projet sur lequel j'ai été amenée à travailler dès mon arrivée. L'idée était d'étudier l'inventaire révolutionnaire de 1791 ou début 1792 qui énumère tout ce qu'il y avait dans les appartements intérieurs du roi comme ce qu'il appelle tableau. Et en fait, quand on regarde tableau, c'est quand même principalement des gravures et des dessins. Il y a quelques voyers, soit quelques gouaches, quelques huiles, quelques pastels, pardon, et qui sont tout à fait minoritaires. En tout, ça représente à peu près 400 gravures et dessins. Je sais compter. En fait, on a 348 items nommés, mais on a à la fin de l'inventaire et d'autres gravures et d'autres estampes posées sur le sol. Voilà. Donc, on peut imaginer qu'on est à peu près à 400 gravures et dessins. Donc, c'est un inventaire qui se présente de cette façon-là, qui est extrêmement intéressant et même assez amusant parce qu'on suit vraiment pas à pas les commissaires révolutionnaires qui rentrent dans une pièce, qui font le tour. La principale difficulté, c'est de trouver par quel côté ils ont fait leur inventaire et ils notent tout ce qu'ils voient. Alors, il y a plusieurs mains, donc certains vont jusqu'à noter donner la description du cadre extrêmement précise. Là, c'est ce que vous voyez par exemple, un cadre de bois doré sculpté et doré. Voilà. D'autres donnent même les dimensions de l'œuvre, donc c'est vraiment extrêmement précis. Et donc ça, on circule depuis donc la pièce de la pendule jusque, je crois que le dernier lieu, c'est l'escalier de l'observatoire, et on se rend compte que c'était littéralement couvert de gravures et de dessins, mais véritablement couverts, c'est-à-dire sur plusieurs registres, sur plusieurs niveaux, et même dans des endroits qui paraissent un peu iconoclastes d'imaginer recouverts de cadres, puisque ça fait partie des chefs-d'œuvre de la sculpture de boiserie, et on aurait du mal à s'imaginer qu'en fait ils étaient complètement cachés que voilà, en fait, tout était accroché sur les murs sans se préoccuper réellement. Alors, ça peut bien s'en aller. Voilà. D'autres espaces, c'est plus facile à imaginer puisque ce sont des espaces qui sont complètement nus. Mais justement, on a l'habitude en les visitant de se dire bon, c'est des lieux de passage. Et en fait, on devait avoir une toute autre impression quand on circulait dans toutes ces parties des appartements de Louis XVI. Donc l'idée, c'était à la fois d'étudier ce document, d'essayer d'identifier chacune des gravures, parce que pour le coup on a souvent un titre précis, mais par contre très rarement, voire quasiment jamais, d'identification des auteurs. Et donc parfois c'est un petit peu court. Après ça, je dois dire que j'ai calé sur un certain nombre de choses comme Cerbre-Autan ou Vue de Port. C'est un petit peu, enfin pour l'instant, maintenant que j'ai compris la logique en fait de la composition de la collection, peut-être qu'avec en poursuivant mes recherches, j'arriverai à identifier ce qu'est un paysan le long d'une rivière. Donc on avait toutes sortes de gravures et de dessins. J'ai complètement laissé de côté, hein, parce que ce sont des choses qui sont bien connues, les pastels, les portraits de la dauphine, les portraits de l'empereur, enfin tout ça, c'est vraiment des choses qui ont été déjà bien étudiées. Je me suis vraiment consacrée toutes ces gravures et dessins qui n'ont jamais été étudiés en tant qu'ensemble. Hein. Christian Bolaise notamment, qui connaissait les inventaires par cœur, a cité certains éléments, mais sans forcément aller jusqu'à l'identification, et puis sans avoir d'études exhaustives vraiment centrées sur ce sujet. Donc on avait beaucoup de portraits de famille. Alors ce qui est amusant, c'est que dans les appartements, les grands appartements, on trouvait le portrait des enfants par Madame Vigier-Lebrun, mais on va trouver également dans le passage des cartes la gravure qui en est tirée, donc qui montre bien aussi que il y a aussi presque une politique pour faire connaître les collections royales, pour faire connaître la qualité de certaines œuvres qui sont à Versailles, eh bien, on fait graver ou on encourage des graveurs à réaliser ces images. Et puis, alors pour bien vous montrer la différence de qualité, hein, on a également Marie-Caroline Reine de Naples, donc là, une des sœurs de Marie-Antoinette, un portrait de Joseph II. Donc bah, vous voyez bien la différence de qualité des gravures, hein, et tout ça cohabité avec des fleurs séchées sous verre, un dessin réalisé par le dauphin, enfin vraiment toutes sortes de... un dessin par Madame Adélaïde, donc des choses extrêmement, extrêmement variées. Événements et allégories... c'est un échantillonnage très rapide, hein, ce que je vous montre forcément. Donc deux allégories de l'avènement de Louis XVI et de Marie-Antoinette au trône, voilà, qui se trouvaient dans les petits appartements, passage des cartes et dans l'escalier pour aller chez mesdames, un escalier qui a disparu. Un événement important qui est le sacre. Donc je vous parlais tout à l'heure de Moreau, et c'est très très grand. Moreau, c'est vraiment le dessinateur et le graveur du règne de Louis XVI qui nous donne les images de toutes les fêtes qui ont eu lieu sous les grandes cérémonies, aussi bien le mariage de 1770, le sacre et les fêtes pour la naissance du dauphin que je vous montrerai tout à l'heure en 1782, avec je ne vais pas m'lancer dans le détail de Moreau parce que ça va être trop voilà les fêtes pour la naissance du dauphin. Pour vous donner une idée, c'est la ville de Paris qui commande cette série de quatre gravures à Moreau. Il s'agit de commémorer les fêtes qui ont été données par la ville et de faire oublier aussi, ces fêtes avaient aussi cet objectif-là, de faire oublier ce qui s'était passé au moment du mariage avec toute cette, tous les morts de la place de la Concorde. Et la ville de Paris avait l'intention de produire un album de fêtes, un livre de fêtes, comme ça s'était fait en 1745 et 47. Et c'est vraiment cette catastrophe qui a arrêté le projet. Et les dessins que l'on connaît, du bal barré, de l'illumination des jardins, du festin à l'opéra, peuvent vraiment être considérés comme les dessins d'un livre de fêtes qui n'a jamais existé finalement. Moreau, quand il est chargé de réaliser ce recueil, ce recueil lui est commandé en 1783, il est payé 45 000 livres pour réaliser ses gravures. Donc Donc vous imaginez ce que ça signifie comme importance accordée à la gravure à cette époque. Il livrera simplement les gravures en 1788 et les gravures sont tirées en très peu d'exemplaires. Il n'y a pas de volume qui est réalisé à ce moment-là. Les choses ont changé. En 1788, on n'est plus dans l'enthousiasme de la naissance d'un dauphin. L'atmosphère n'est plus du tout à ça. Et donc ces gravures, les quatre gravures, enfin pas les gravures, quatre dessins, l'inventaire nous dit dessins, qui ont certainement été exposés au salon. C'est certainement ceux qui ont été exposés, en tout cas une version de ceux qui ont été exposés au salon de 1787, je crois, qui étaient présentés dans les appartements de Louis XVI. Là, on est vraiment sur la question des équivalences, c'est-à-dire que ces dessins ne sont pas localisés. Comme on a des gravures qui ont été réalisées d'après ces dessins, j'ai pris le parti de proposer des accrochages de ces gravures. Je vais passer vite. Il y a une thématique qui est importante, c'est autour de l'histoire, donc autour d'Henri IV. Deux types d'œuvres assez amusantes qui se trouvaient dans les appartements, qui est des portraits au trait de plume, notamment d'un calligraphe qui s'appelle Joseph Bernard, qui était un calligraphe de la cour du roi de Pologne, qui vient à Paris et qui réalise ses portraits au trait continu, c'est-à-dire au trait l'inverse d'un main levé, c'est-à-dire que vraiment c'est un trait sans s'arrêter à base de j'arrive plus à trouver mon mot, je vous fais des petits signes là. Il doit sa notoriété, je crois que c'est 1779, j'ai un trou. Il réalise en fait sur le vif des portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette de manière très virtuose. Et c'est ensuite qu'il va devenir très connu et qu'il va réaliser un certain nombre de portraits de toutes sortes de personnalités parisiennes. Et pas seulement, puisque on sait par l'inventaire qu'il y avait également un portrait au trait de plume d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée. J'ai pas réussi non plus à localiser. Et ces portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette, il en réalise finalement tous les ans. Une partie a malheureusement été perdue dans l'incendie du château de Lunéville, qui en a conservé plusieurs. On en trouve quelques séries. Et on a l'impression que il en fait un par an. Alors peut-être pas à chaque fois sur le vif, mais peut-être d'après des gravures. On en retrouve comme ça quelques-uns. Donc là, l'une des plus belles se trouve au British Museum de 1782, je crois. Mais nous avons eu la chance de pouvoir en acheter ou recevoir des dons de ces portraits au trait de plume. Et on a même eu deux Marie-Antoinette. Des portraits, un portrait de Louis XVI, un portrait de Marie-Antoinette, celui donc de droite de 1781, celui de Louis XVI de 1782, qui se trouvait dans le cabinet de physique. Donc là, on est plutôt dans l'idée de proposer un accrochage d'un fac-similé. Dans les petits cabinets. Alors tout à fait autre chose, une thématique extrêmement importante, et ça c'est bien connu, de Louis XVI, son goût pour la marine. Et son goût pour la marine, on va le retrouver tout à fait clairement exprimé dans ses appartements, avec énormément de choses. Donc là, c'est un tout petit exemple, mais notamment... C'est la grande série des ports de France qui ont été réalisés d'après Joseph Vernet par Cochin et Lebas, et qui se trouvait, c'est une série de 15 gravures qui se trouvaient dans toutes les, enfin 11 se trouvaient dans les différents, dans différentes pièces des petits appartements. Vous me posiez la question des tirages, sans que je puisse vous répondre sur les tirages exactement. On sait qu'en 1800, autour de 1800, quand on cherche à faire à la calcographie de nouveaux tirages de ces gravures, on répond que les planches sont tellement usées que ça ne peut rien donner. Donc voilà, il y a eu un très fort engouement pour ces gravures qui ne sont pas rares, mais qui sont rares en bon état, en fait. Parce qu'elles ont souvent été mises sans beaucoup de précautions, sans qu'on y accorde beaucoup d'importance dans les maisons, les châteaux, et sont restées accrochées très longtemps. Et donc, j'ai presque réussi à racheter la série complète. Donc là, on a une vue de Bayonne. Et j'ai enlevé celle de l'autre. J'ai pu acheter l'année dernière, je crois, une douzaine de vues qui permettent. Ça ne correspond pas tout à fait aux 11 qui sont mentionnées dans l'inventaire, mais ça permet aussi d'imaginer un accrochage qui montre la variété de ces vues. Là, c'est donc un exemple de cette série des ports de France, mais on avait aussi beaucoup de dessins qui ont été réalisés à la demande de Louis XVI par Legoise, et qui montrent tous ces ports, tous les ports de France. Là, les marins sont très critiques sur ces gravures. Hein, bien qu'ils n'ont pas du tout été faits par des marins, pour des marins, pour montrer le système défensif du port ou les arsenaux, ou voilà, ce sont des vues pittoresques et qui ont été vraiment commandées par Marigny dans cette optique-là. D'autres dessins sont beaucoup plus précis, et beaucoup plus techniques. Alors, vous savez que le seul voyage de Louis XVI, c'est son déplacement à Cherbourg en 1786, qui est un succès, d'abord un succès populaire, puisqu'il est acclamé partout où il passe. Et il est tellement enchanté par son voyage. L'objectif était d'aller à Cherbourg pour voir les travaux qui étaient menés dans le port avec ces immersions de caisses coniques qui devaient servir de support à la digue qui fermait le port pour en faire, c'était un petit port de pêche, hein, Cherbourg, et ça devait devenir la tête de pont ou le port face à l'Angleterre de la Manche. On est vraiment dans l'optique de la guerre contre l'Angleterre au moment de la guerre d'indépendance américaine. Donc c'est une série de quatre que je n'arrive pas à trouver d'ailleurs, qui se trouvaient dans la salle du billard, donc dans un lieu extrêmement visible. Enfin, c'était pas du tout dans les parties les plus privées des appartements de Louis XVI. Autre port qui intéresse beaucoup Louis XVI, c'est la création de Port Vendre. On est toujours dans la même idée et dans la même période de développement de la marine française. Vous savez que le règne de Louis XVI est vraiment le coup d'accélérateur à tout point de vue par les décret, l'organisation et les moyens qui sont mis dans la, pour la marine. Et la création de Port Vendres devait servir de port défensif en Méditerranée avec un site qui était naturellement protégé. Donc c'est Charles de Vailly qui est chargé de mener le projet et il va concevoir vraiment autour du port une ville nouvelle en fait, hein, autour d'une place carrée que vous voyez en haut. Et ce, donc, il y a un certain nombre de plans qui sont gravés et l'un de ceux-là se trouvait dans le passage des cartes. Et puis il y avait aussi des projets, des dessins, des projets pour un obélisque à la gloire de Louis XVI, une des seules places royales réalisées pour, enfin, place royale dédiée à Louis XVI réalisée se trouve à Port-Vendres, hein, avec un obélisque, avec des bas-reliefs qui donnent les grands moments du règne. Donc c'est une réalisation importante pour l'architecture urbaine. Alors, l'indépendance américaine est évoquée par plusieurs choses. Port-Vendres, c'est vrai. Port-Vendres et Cherbourg sont vraiment à mettre en lien avec l'indépendance américaine. L'un des œuvres qui m'a un petit peu intriguée, c'est ce portrait du général Washington. C'est pas l'œuvre en elle-même qui m'a intriguée, c'est le fait que l'inventaire précise que le cadre est l'un des plus somptueux, des plus raffinés que l'on pouvait trouver dans les petits appartements, sculpté avec un décor de feuilles de laurier et de feuilles d'acanthe et surmonté d'une couronne. Donc vraiment un objet extrêmement... une gravure qui était somptueusement encadrée. Donc la gravure en elle-même est extrêmement rare puisque c'est pareil, elle a une histoire qui est assez amusante. Elle est extrêmement rare et lorsqu'elle passe en vente, elle est immédiatement achetée par les Américains qui se jettent dessus parce qu'ils en sont très très friands. Donc toutes les gravures que j'ai pu repérer sont en collection américaine et donc quand je les repérais sur eBay, je dois dire que j'ai cru que j'allais avoir une attaque et on a eu aussi la chance d'avoir un mécénat pour cette un don pour cette gravure et voilà, donc une gravure qui, une fois de plus, on n'y accorde pas forcément plus d'importance que ça avec notre regard. Mais c'est une gravure qui a une grande importance parce qu'elle reprend un tableau qui n'est pas localisé, qui est un tableau réalisé par Lafayette, enfin pour Lafayette, à la demande de Lafayette quand il rentre en France par Le Pan. Et Lafayette lui-même commande à Lemire la réalisation de cette gravure et il est très très attentif au moindre détail et il demande même à Lemire de contacter Franklin pour être sûr que les noms des Bills qui sont foulés du pied, qui sont les Bills anglais que Washington foule du pied, sont les bons et correspondent bien à la réalité historique. Donc il y a un vrai souci, une vraie volonté de diffuser cette image, y compris dans son côté très symbolique. Alors pourquoi le cadre à côté? Parce que trouver un cadre aussi luxueux, c'est très compliqué, nous n'en avons pas dans les collections. Donc j'ai acheté récemment toute une série de cadres plutôt plus simples, anciens, et ayant trouvé celui-ci, qui a un côté quand même un petit peu plus ornés, en attendant mieux, je présenterai la gravure dans ce cadre, dans le passage des cartes. Je vais aller un tout petit peu plus vite, ça ce sont des acquisitions de la Société des Amis plus anciennes, un monument en l'honneur de Louis XVI à Paris et le plafond de la salle de spectacle de Bordeaux. Je sens que je suis déjà trop longue, je vais passer très vite. D'autres éléments qui vont permettre de restituer ce décor, des choses qui sont extrêmement rares. Là aussi, techniquement, on n'a pas l'idée que ça pouvait exister. Pourtant, ça, c'était pas courant du tout, c'était spécifiquement luxueux, mais c'était quelque chose qui se pratiquait, la gravure sur satin ou la gravure sur soie. Et il y avait dans les escaliers pour aller chez la reine et les escaliers du laboratoire une série de 7 cartes qui ont été offertes à Louis XVI, qui représentent les différentes parties en fait, du bassin parisien, des environs de Paris. Pardon. Et il se trouve que ces cartes se trouvent à la bibliothèque municipale de Versailles, qu'elles sont en très bon état, même si elles sont jaunies, et que l'idée là, c'est de les faire réimprimer, alors non pas à la plaque, parce que c'est absolument impossible, mais à partir de photos numériques par des fabricants de tissus extrêmement de grande qualité. Donc, l'idée, c'est de tenter ça pour pouvoir ensuite proposer un accrochage avec des facsimilés, mais des facsimilés de qualité. On trouvait aussi les cartes des environs de Paris, les cartes des chasses, c'est la carte topographique des environs de Versailles, pardon, qui est très connue sous le nom de carte des chasses, le canal royal, tout ça, ce sont des pièces que nous n'avons pas, hein, ce sont des images qui proviennent la plupart du temps de la Bibliothèque nationale. Alors là aussi, je vais passer vite parce que je n'ai plus le temps, mais ce qu'on repère dans cet accrochage, en fait, c'est que plusieurs graveurs se mettent en valeur, et en particulier Cochin, Lebas et Moreau, qui ont accès au roi, qui présentent de très nombreuses œuvres à Louis XVI et que Louis XVI les accroche. En fait, je pense que Louis XVI choisit parmi les œuvres qui lui sont présentées celles qu'il veut accrocher. Mais on peut retrouver dans la Gazette la trace d'énormément de ces gravures qui sont présentées au roi par le graveur, par l'auteur, par les dessinateurs, etc. Donc, ce qui explique aussi le côté un petit peu éclectique de ce qui se trouvait dans les petits appartements. Cochin avec les fameuses batailles de l'empereur de Chine. Et alors, ce qui pour clore ces estampes et dessins, une grande partie a été vendue. Hein, on en trouve à peu près la trace de 150 soit dans les archives, soit dans les catalogues qui sont dressés comme prospectus de vente. Hein. Certaines ont été transférées à Paris, à Versailles, comme je vous l'ai montré, à la bibliothèque municipale, mais finalement assez peu. Et c'est vrai qu'il y a une inconnue sur près de la moitié, mais très vraisemblablement, elles ont servi de décor pour d'autres appartements, et du coup, on a perdu un petit peu le fil de leur provenance, soit elles ont été détruites. On trouve la trace d'un certain nombre d'estampes qui devaient être des estampes allégoriques ou des portraits qui sont lacérés, donc vandalisés. Voilà, l'espoir de retrouver des estampes qu'on puisse racheter pour les remettre à l'endroit où elles se trouvaient et maigres, à quelques exceptions près. Mais par contre, l'intérêt de l'estampe, c'est qu'à partir du moment où c'est un multiple, on peut vraiment travailler par équivalence. Alors de toute façon, c'est ce qu'on fait partout dans le château, hein, bien sûr. Mais là, encore plus, puisque à partir du moment où la planche est la bonne et qu'on trouve un bon tirage et qu'on a un cadre qui est cohérent, l'idée c'est, et puis c'est d'expliquer aussi aux visiteurs qu'on n'est pas dans l'œuvre même, mais qu'on est dans une restitution d'atmosphère finalement, parce que donc ça c'est un lieu de passage que personne ne remarque, c'est le couloir le long de la cour des serres qui va de la salle à manger intérieure jusqu'au cabinet et une fois qu'on l'a habillé, Et bien c'est vrai que ça prend vraiment une autre dimension. Alors là, si vous y repassez maintenant, vous verrez que presque tout a disparu, parce que c'était une proposition. Il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Ce que vous avez sur la droite, ce sont des gravures de Cochin des années 1745, mais bon, c'était une... enfin voilà, l'idée c'était juste d'essayer un rendu, et en fait on n'a pas pu avancer assez sur la protection des œuvres, puisque alors on a des filtres anti-UV maintenant sur les fenêtres, mais par contre il faut qu'on avance sur l'installation de rideaux pour protéger encore mieux, et ensuite l'idée c'est d'ajouter une troisième protection en mettant des verres anti-UV sur les gravures elles-mêmes. Et là, on peut imaginer quand même qu'on peut proposer une présentation pérenne. La seule que j'ai laissée, parce que vraiment elle ne risque rien, c'est l'estampe ronde en dessus de porte, là, le plafond du Grand Théâtre de Bordeaux, parce que là où elle est placée, elle n'a aucune lumière directe, et voilà, elle peut supporter cet emplacement. Et puis j'ai laissé aussi, je crois, les batailles d'Alexandre, parce que comme elle est vraiment dos à la lumière, c'est pareil. Mais voilà, donc là on était sur une proposition de restitution qui a été vraiment convaincante, et donc l'idée maintenant c'est, après avoir acheté ou reçu, pouvoir avancer dans la présentation. Mais voilà, il y a encore un certain nombre d'étapes qui sont pas encore assez avancé. Alors, dans l'escalier semi-circulaire, j'ai mis sur un des paliers trois des gravures faites pour le mariage du dauphin, sauf que elles sont parties au Japon pour l'exposition Marie-Antoinette. Donc voilà, mais tributaire de. Mais c'était aussi très convaincant. Et là, pour le coup, alors ça ne posera aucun problème pour une autre raison, c'est que ce sont des gravures qui sont des reproductions de la calcographie. Donc c'est-à-dire que ce sont des gravures réalisées d'après la planche originale, mais récentes. Alors en l'occurrence, ce sont des calcographies anciennes, hein, puisque elles sont 48, je crois, acheté en 48, mais malgré tout, voilà, là pour le coup, j'ai aucun scrupule. En plus, elles sont vraiment très très peu éclairées à les présenter là. Voilà, alors on peut imaginer beaucoup d'autres endroits. Voilà, la garde-robe à l'anglaise, c'était un véritable roman feuilleton dans la garde-robe à l'anglaise. Je crois qu'il y avait une trentaine de gravures, donc, vraiment il y avait de l'occupation. Dans le passage vers la bibliothèque, donc le passage qui est au-dessus du passage des cartes, il y avait aussi un certain nombre de choses. Dans les cabinets, le cabinet de physique que je vous l'ai dit, enfin, il y a vraiment tout un ensemble de lieux où on peut imaginer ces restitutions après donc toutes ces acquisitions. Voilà, je vous remercie. Et merci de votre patience.
Et compte tenu de la richesse et de la fragilité du fonds, vous en envisagez la numérisation pour faciliter consultation ?
Il est presque intégralement numérisé, puisque de toute façon, à l'instant où on a les nouvelles acquisitions, elles sont photographiées. Et il y a depuis bien longtemps une politique de photographie systématique de la RMN. Il y a eu une politique complète, il y a peut-être 10 ans, de numérisation de tous les portraits gravés, des albums bifiliques qui sont accessibles en interne sur les bases de gestion, mais aussi sur la banque d'images du centre de recherche du château de Versailles. Tout ce que vous trouvez comme portrait, ça vient de ces albums-là. Donc oui, après ça, il n'y a pas forcément toujours diffusion complète, diffusion intégrale. C'est vrai qu'il y a des choses les choses prennent un petit peu plus de temps, mais oui, c'est la suite logique.
Parce que la consultation est possible donc par ce biais-là.
La consultation est possible par le biais de.
Parce que je suppose que les pièces originales, la consultation en est réservée aux chercheurs.
Voilà, tout à fait. C'est une consultation à côté du cabinet existe.
Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions juste dans l'immédiat, je propose de continuer simplement autour d'un verre, ça permet de prolonger l'échange. On aura encore quelques minutes. d'amis S et d'amis E.
Voilà. Alors, je n'ai nommé personne. J'ai choisi ça parce que je me suis dit que si j'en nommais quelqu'un, je risquais d'oublier d'autres personnes et que du coup, j'allais créer des dissensions et des inégalités. Donc, j'ai choisi. J'ai dit quand c'était des dons, presque tout le temps. Voilà. C'est couvert, bien sûr.
Beaucoup de
plaques la cartographie a découvert des milliers et des milliers. Et ces idées révolutionnaires ont été. C'est révolutionnaire. C'est Vivant d'Europe qui a créé le département de la galerie.
Qui est au Louvre, voilà.
Alors que les collections maintenant elles sont plus au Louvre, elles sont à Saint-Denis. Mais c'est au Louvre, ça. C'est un fond très éclaté parce qu'il y a.
Ah bon, mais des tirages peuvent être faits.
Oui. Des tirages peuvent être faits.
Cher.
Oui, j'en ai déjà racheté, notamment pour les cochons, pour les fêtes. Voilà. Certaines sont. On ne peut pas avoir de tirage. Voilà, il y a un des cochons qui n'est plus. Je sais plus. Je crois que c'est le. Pour qu'elle fasse la planche est complètement utile.
Alors, retirer maintenant sur une plaque, sa valeur est la même. Voilà, c'est ça.
Absolument pas. C'est le prix de vente.
Voilà.
Et en même temps, la valeur des gravures, c'est quelque chose qui est tellement effondré.
Ah oui,
aujourd'hui, que parfois un tirage ancien coûte moins cher.
Que de faire un retirage.
Tout simplement parce que très souvent les gens. Alors c'est sûr que si vous allez chez Côté, non.
Oui, c'est ça.
Mais j'ai un ami qui a trouvé une planche, un tirage 18e, un tirage d'origine des batailles de la Chine, à 30 euros. Chez un coiffeur de province.
Ah oui, c'est ça.
Parce que. C'est quelque chose qui n'est pas du tout connu et les gens ont aucune idée de la valeur réelle de ce qu'ils ont. Oui. Et souvent, c'est en assez mauvais état. Et donc, voilà.
Et tout ce qui est chez Côté, c'est vraiment des choses.
Non.
Oui, c'est pas mieux,
pas forcément. C'est pas mieux que ce qu'on peut trouver chez le.
Sur eBay, par exemple.
Ah, voilà.
C'est sidérant.
J'ai aucun scrupule à vous dire que j'achète sur eBay.
Non, mais c'est sidérant.
Oui, c'était surprenant, l'achat.
Mais j'ai. Et alors, je ne l'aurais trouvé jamais nulle part ailleurs. Et je vais vous dire, le marchand m'a même dit j'ai fait une erreur lorsque je l'ai mis sur eBay. Parce que je l'ai mis sur eBay France, je me suis trompée.
Ah oui.
Je ne l'ai pas mis sur eBay international. Et si je l'avais mis sur eBay international, vous ne l'auriez pas eu.
Oui.
Voilà. Ah, oui. On peut acheter de gré à gré sur eBay, on n'est pas obligé de faire de nos enchères. Donc on n'a pas. Généreux donateur n'a pas fait monter en
enchères.
Non, c'est.
Et alors elle est vraiment d'époque
où il n'y a pas eu de retirage.
Il n'y a pas eu de retirage.
Et pour du coup, la planche, en tout cas, n'est pas identifiée à laquelle on
partit.
D'accord.
On passe de l'autre côté.
Plus avec plaisir.
Pour tout le monde, pour vous y compris.
Alors, je vais juste ranger ma
chaise. Alors, chère Elisabeth, depuis que vous êtes au cabinet des arts graphiques,
moi je dépense.
Moi je dépense.
Il y a raison, mais non, mais c'est formidable.
Non, je suis juste une femme
dépensière. Mais vous avez
je ne peux pas dépenser pour moi.
C'est sûr.
Donc je dépense pour
vous. Exactement. Puis tant qu'on ne me dit pas non.
Ben voilà.
Absolument. Vous avez dit non d'ailleurs, je vous d'après.
Avec ce qu'on dit, Maurice Aubrepré. Il faut que les photographies soient incluses dans le cabinet d'art graphique.
Alors ça, j'attendrai le départ de cette personne.
Madame Soule n'est pas d'accord avec ce genre d'achat.
Non, c'est pas Madame Soule, c'est carré.
Ah, mais d'accord, ce qu'elle nous a dit d'ailleurs tout à l'heure, ça avait un sens de lui savoir.
Non.
Ce que disait Maurice Aubrepré était très
bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens.
Ça peut justifier comme vous voulez.
Ça peut justifier comme vous voulez. Moi, je ne vais pas aller me poser. En plus, c'est la seule, à un moment, depuis une dizaine d'années, c'est la seule qui se soit intéressée à ces fonds. Il faut reconnaître ça aussi.
Ah ben, par rapport à ce que vous nous aviez montré pendant la visite, ça boum, hein.
C'est très bien, mon petit. Continuez. Merci. Bon, allez, on va. Je suis cassée. rapidement.